Chapitre 43, l'Église sur la terre. Dieu a sur la terre une Église formée d'élus qui gardent ses commandements. Il ne dirige pas ici et là un individu. Il dirige une Église. La vérité possède une puissance sanctifiante. Mais l'Église militante n'est pas l'Église triomphante. L'ivraie se trouve mêlée au bon grain. Veux-tu que nous arrachions l'ivraie? Demandent les serviteurs. Mais le maître leur dit, non, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez aussi le bon grain. Le filet de l'Évangile ne ramène pas seulement de bons poissons, il en ramène aussi de mauvais, et Dieu seul connaît les siens. Notre devoir personnel est de marcher humblement avec Dieu. Nous ne devons pas chercher quelques messages nouveaux et bizarres. Il ne faut pas prétendre que les élus de Dieu, ceux qui s'efforcent de marcher dans la lumière, constituent Babylone. Bien que des imperfections se trouvent dans l'Église des derniers temps, il en sera ainsi jusqu'à la fin, cette Église doit être la lumière qui brille au milieu d'un monde souillé et perverti par le péché. Affaiblie et imparfaite, elle a besoin d'être reprise, avertie, conseillée. Mais elle n'en est pas moins ici-bas l'unique objet sur lequel le Christ jette un suprême regard. Le monde est un atelier où, avec la coopération de ses agents divins et humains, Jésus agit dans les cœurs par sa grâce et sa miséricorde. Dieu a un peuple particulier, une Église sur la terre qui n'est inférieure à aucune, mais supérieure à toutes par les moyens dont elle dispose pour enseigner la vérité et revendiquer les droits de la loi de Dieu. Dieu s'est établi des agents qu'il dirige, des hommes qui ont porté le poids et la chaleur du jour, et qui coopère avec les instruments célestes pour faire avancer l'œuvre du Seigneur dans ce monde. Que tous s'unissent à ces instruments choisis de Dieu, et soient trouvés enfin avec ceux qui ont la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu, et la foi de Jésus. L'Église de Dieu sur la terre ne forme qu'un corps avec celle qui est dans le ciel. Les croyants d'ici-bas et les êtres célestes qui n'ont pas connu le péché constituent une seule et même Église. Toutes les intelligences de l'au-delà s'intéressent aux assemblées des saints qui adorent Dieu en ce monde. Dans les cours célestes, ils prêtent une oreille attentive aux paroles des témoins du Christ qui se trouvent sur la terre, et les expressions de louange et de reconnaissance de ceux-ci sont répétées dans les parvis célestes où retentissent des cris de réjouissance, parce que le Christ n'est pas mort en vain pour les fils déchus d'Adam. Alors que les anges se désaltèrent à la source, les saints sur la terre boivent l'eau pure des ruisseaux qui sortent du trône de Dieu et réjouissent la cité céleste. Ah! Si nous pouvions voir combien le ciel est près de la terre. Sans qu'ils s'en rendent compte, les enfants de Dieu ont des anges pour compagnons. Un témoin silencieux garde toute âme et s'efforce de l'amener au Christ. Aussi longtemps qu'on n'a pas résisté au Saint-Esprit, on est gardé par les intelligences célestes. Souvenons-nous que les anges de Dieu sont présents à toutes nos assemblées. Ils écoutent nos chants, nos témoignages et nos prières. Sachons que le cœur des anges supplée à l'insuffisance de nos louanges. Quand vous vous réunissez le jour du sabbat, chantez donc les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Rendez hommage à celui qui nous aime, et qui nous a lavés de nos péchés par son sang. Que l'amour du Christ soit le grand thème du prédicateur. Que cet amour soit exprimé simplement dans chaque cantique, et nos prières, dictées par l'Esprit. Lorsque vous entendez la parole, que la réponse empressée de votre cœur témoigne que vous recevez un message directement du ciel. Le Seigneur veut que nous nous réunissions dans sa maison pour y cultiver les attributs de l'amour parfait. C'est ainsi que les habitants de la terre seront préparés pour les demeures que le Christ est allé édifier au ciel pour tout ce qu'il aime. Alors ils s'assembleront dans le sanctuaire chaque nouvelle lune et chaque sabbat pour exécuter les chants les plus sublimes. Ils feront monter sans cesse devant celui qui est assis sur le trône et devant l'agneau des louanges et des actions de grâce. L'autorité de l'Église. Le Rédempteur du monde a investi son Église d'une grande autorité. Il a établi les règles qui doivent être appliquées en cas de difficulté entre les membres de cette Église. Après avoir donné des directives explicites sur la manière de procéder, il ajoute, « Je vous le dis en vérité, Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout, en matière de discipline ecclésiastique, ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Ainsi, l'autorité céleste confirme la décision de l'Église envers ses membres pour autant que le précepte biblique ait été suivi. La parole de Dieu ne permet pas à un homme d'opposer son propre jugement à celui de l'Église, pas plus qu'elle ne le laisse soutenir ses opinions contre celles de l'Église. Celle-ci s'éparpillait s'il n'y avait pas de discipline. Elle ne constituerait pas un corps. Il y a toujours eu des esprits indépendants qui ont proclamé qu'ils étaient dans le droit chemin et que Dieu leur avait donné certains enseignements particuliers et les avait conduits d'une manière toute spéciale. Il s'agissait toujours des théories personnelles, que l'on prétendait être en accord avec la parole de Dieu. Ces personnes s'écartent du corps de l'Église et constituent chacune pour elles-mêmes une Église. Elles ne peuvent pas toujours avoir raison, bien qu'elles prétendent toutes avoir été conduites par le Seigneur. Notre Sauveur, dans ses enseignements, nous a fait la promesse que là où deux ou trois étaient rassemblés pour demander quelque chose à Dieu, cela leur serait accordé. Le Christ montre par là la nécessité de l'union, même dans nos prières pour un objet déterminé. Une grande importance est attachée à l'unité dans la prière, à l'union dans les intentions. Dieu écoute les prières individuelles, mais à cette occasion Jésus donna des instructions spéciales et importantes qui devaient avoir une portée décisive sur l'Église nouvellement organisée. Les membres de l'Église doivent se mettre d'accord sur les objets de leur recherche et de leur prière. Il ne s'agit pas simplement des pensées et des réflexions d'un seul esprit sujet à l'erreur. Mais la demande doit être celle de plusieurs esprits concentrés sur le même sujet. L'Église est le moyen que Dieu a choisi pour faire connaître le salut aux hommes. Établie pour servir, elle a pour mission de proclamer l'Évangile. Dès le commencement, Dieu a formé le dessein de révéler par elle sa puissance et sa plénitude. Appelée des ténèbres à sa merveilleuse lumière, les hommes qui la composent doivent refléter sa gloire. L'Église est la dépositaire des richesses de la grâce du Christ. C'est par elle que l'amour de Dieu se manifestera finalement de façon puissante et décisive aux dominations et aux autorités dans les lieux célestes. Paul dirigeait vers l'Église pour recevoir des instructions. Beaucoup de gens pensent qu'ils ne sont redevables qu'au Seigneur de leur lumière et de leurs expériences, indépendamment de ses autres disciples dans le monde. Mais cela est démenti par Jésus dans ses enseignements, ainsi que dans les exemples qu'il a donnés pour notre instruction. Paul est un de ces exemples. Le Christ voulait le préparer pour une œuvre essentielle, il l'avait choisi comme son instrument, et il s'était montré à lui miraculeusement. Pourtant Jésus n'enseigna pas lui-même la vérité à Paul. Il l'arrêta dans sa course et le convainquit de son erreur. Mais lorsque Paul lui dit « Que veux-tu que je fasse ?» le Sauveur ne lui répondit pas directement, il le mit en contact avec son Église. Les disciples devaient lui dire ce qu'il fallait faire. Jésus est l'ami du pécheur. Son cœur est toujours ouvert, toujours sensible à l'appel des hommes. Il possède toute la puissance au ciel et sur la terre, mais il respecte les instruments qu'il a choisis pour éclairer les hommes et les amener au salut. Il dirigea Saul vers son Église, sanctionnant ainsi l'autorité dont il l'a investi pour qu'elle soit la lampe qui fasse briller la lumière dans le monde. Elle est le corps du Christ sur la terre et on doit respecter ses ordonnances. Dans le cas de Saul, Anania représente le Christ, et il représente aussi les ministres du Christ sur la terre, ce qu'il a désigné pour agir à sa place. Dans la conversion de Paul, on nous donne des principes importants que nous devons toujours garder à l'esprit. Dans une zone où existe l'Église de Dieu, le Rédempteur du monde ne sanctionne pas l'expérience et l'exercice dans les affaires religieuses indépendamment de celle-ci. Le Fils de Dieu s'est identifié avec la position, le rôle et à l'autorité de son Église organisée. On devait recevoir ses bénédictions à travers les hommes qu'il a consacrés, et ainsi lier l'homme au moyen à travers lequel nous recevons ses bénédictions. Le fait que Paul était strictement consciencieux dans son travail de persécuter les saints ne le libère pas de sa culpabilité quand l'Esprit de Dieu le fait reconnaître son œuvre cruelle. Il va devenir l'élève des disciples. Tous les membres de l'Église, s'ils sont fils et filles de Dieu, devront se plier à une discipline avant de pouvoir être la lumière du monde. Dieu ne peut se servir d'hommes et de femmes qui se plaisent dans les ténèbres et qui ne font aucun effort pour se rapprocher de la source de la lumière. Ceux qui sentent leur misère et font tout ce qu'ils peuvent pour sortir de leur état tout en adressant au ciel de ferventes prières sont assurés du secours d'en haut. On a beaucoup à apprendre et à désapprendre sur son propre compte. Il faut combattre les vieilles habitudes, et c'est seulement en luttant courageusement pour se débarrasser de ses défauts et pour acquérir une connaissance parfaite de la vérité en la mettant en pratique, que par la grâce de Dieu, l'on peut remporter la victoire. Conseil au sujet d'une erreur qui se propage. Ceux qui ont commencé à proclamer un message de leur propre chef et qui, prétendant être enseignés et conduits par Dieu, continuent par des efforts persévérants de saper l'œuvre que Dieu a bâtie pendant des années ne font pas la volonté de Dieu. Que l'on sache que ces hommes sont du côté du grand séducteur. Ne les croyez pas. En tant qu'économe des biens et des talents, vous avez mal géré les biens de Dieu en propageant l'erreur. Le monde entier est rempli de haine pour ceux qui proclament que les exigences de la loi de Dieu sont en vigueur, et l'Église, qui est loyale à Jéhovah, doit s'engager dans un conflit peu ordinaire. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ceux qui comprennent le sens de cette guerre ne dirigeront pas leurs armes contre l'Église militante, mais au contraire, uniront toutes leurs forces au peuple de Dieu pour lutter contre la coalition des forces du mal.